L'éducation sentimentale, première partie, chapitre 5. Le lendemain, avant midi, il s'était acheté une boîte de couleurs, des pinceaux, un chevalet. Pèlerin consentit à lui donner des leçons et Frédéric l'emmena dans son logement pour voir si rien ne manquait parmi ses ustensiles de peinture. Des lauriers étaient rentrés. Un jeune homme occupait le second fauteuil. Le clerc dit en le montrant « C'est lui, le voilà, Sénécal !» Ce garçon déplut à Frédéric. Son front était rehaussé par la coupe de ses cheveux taillés en brosse. Quelque chose de dur et de froid perçait dans ses yeux gris. Et sa longue redingote noire, tout son costume, sentait le pédagogue et l'ecclésiastique. D'abord, on causa des choses du jour, entre autres du Stabat de Rossini. Sénécal, interrogé, déclara qu'il n'allait jamais au théâtre. Pèlerin ouvrit la boîte de couleurs. « Est-ce pour toi tout cela ?» dit le clerc. « Mais sans doute. »« Tiens, quelle idée !» Et il se pencha sur la table, où le répétiteur de mathématiques feuilletait un volume de Louis Blanc. Il l'avait apporté lui-même et lisait à voix basse des passages, tandis que Pèlerin et Frédéric examinaient ensemble la palette, le couteau, les vessies. Puis ils vinrent à s'entretenir du dîner chez Arnoux. « Le marchand de tableaux ?» demanda Sénécal. « Joli monsieur, vraiment !»« Pourquoi donc ?» dit Pèlerin. Sénécal répliqua « Un homme qui bâmonnait avec des turpitudes politiques !» Et il se mit à parler d'une lithographie célèbre représentant toute la famille royale livrée à des occupations édifiantes. Louis-Philippe tenait un code, la reine un paroissien, les princesses brodaient, le duc de Nemours saignait un sabre. Monsieur de Joinville montrait une carte géographique à ses jeunes frères. On apercevait dans le fond un lit à deux compartiments. Cette image, intitulée « Une bonne famille » avait fait les délices des bourgeois, mais l'affliction des patriotes. Pèlerin, d'un ton vexé comme s'il en était l'auteur, répondit que toutes les opinions se valaient. Sénécal protesta. L'art devait exclusivement viser à la moralisation des masses. Il ne fallait reproduire que des sujets poussant aux actions vertueuses. Les autres étaient nuisibles. « Mais ça dépend de l'exécution !» cria Pèlerin. « Je peux faire des chefs-d'œuvre !»«
Tant pis pour vous, alors. On n'a pas le droit... »«
Comment ?»«
Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de m'intéresser à des choses que je réprouve. Qu'avons-nous besoin de laborieuses bagatelles, dont il est impossible de tirer aucun profit ? De ces Vénus, par exemple, avec tous vos paysages. Je ne vois pas là d'enseignement pour le peuple. » « Montrez-nous ces misères, plutôt. Enthousiasmez-nous pour ces sacrifices. Et, bon Dieu, les sujets ne manquent pas. La ferme, l'atelier... »
Pèlerin en balbutiait d'indignation, et croyant avoir trouvé un argument,
« Molière, l'acceptez-vous ?»«
Soit, dit Sénécal, je l'admire comme précurseur de la Révolution française. »
« La Révolution, quel art ! Jamais il n'y a eu d'époque plus pitoyable !»«
Pas de plus grande, monsieur !»
Pèlerin se croisa les bras et, le regardant en face, « Vous m'avez l'air d'un fameux garde national !»
Son antagoniste, habitué aux discussions, répondit « Je n'en suis pas, et je la déteste autant que vous, mais avec des principes pareils, on corrompt les foules. Ça fait le compte du gouvernement. Du reste, il ne serait pas si fort sans la complicité d'un tas de farceurs comme celui-là. »
Le peintre prit la défense du marchand, car les opinions de Sénécal l'exaspéraient. Il osa même soutenir que Jacques Arnoux était un véritable cœur d'or, dévoué à ses amis, chérissant sa femme.
« Oh ! Si on lui offrait une bonne somme, il ne la refuserait pas pour servir de modèle. »
Frédéric devint blême.
« Il vous a donc fait bien du tort, monsieur.
À moi ? Non, je l'ai vu une fois au café avec un ami. Voilà tout. »
Sénécal disait vrai. Mais il se trouvait agacé quotidiennement par les réclames de l'art industriel. Arnoux était, pour lui, le représentant d'un monde qu'il jugeait funeste à la démocratie. Républicain austère, il suspectait de corruption toutes les élégances, n'ayant d'ailleurs aucun besoin et étant d'une probité inflexible. La conversation eut peine à reprendre. Le peintre se rappela bientôt son rendez-vous, le répétiteur ses élèves. Et quand ils furent sortis, après un long silence, Deslauriers fit différentes questions sur Arnoux. «
Tu m'y présenteras plus tard, n'est-ce pas, mon vieux ?»«
Certainement, » dit Frédéric. Puis ils avisèrent à leur installation. Deslauriers avait obtenu, sans peine, une place de second clerc chez un avoué. Prit à l'école de droit son inscription, acheter les livres indispensables. Et la vie qu'ils avaient tant rêvée commença. Elle fut charmante, grâce à la beauté de leur jeunesse. Deslauriers n'ayant parlé d'aucune convention pécuniaire, Frédéric n'en parlant pas. Il subvenait à toutes les dépenses, rangeait l'armoire, s'occupait du ménage. Mais s'il fallait donner une mercuriale au concierge, le clerc s'en chargeait, continuant, comme au collège, son rôle de protecteur et d'aîné. Séparés tout le long du jour, ils se retrouvaient le soir. Chacun prenait sa place au coin du feu et se mettait à la besogne. Ils ne tardaient pas à l'interrompre. C'étaient des épanchements sans fin, des gaietés sans cause et des disputes quelquefois, à propos de la lampe qui filait ou d'un livre égaré. Colère d'une minute que des rires apaisaient. La porte du cabinet au bois restant ouverte, ils bavardaient de loin dans leur lit. Le matin, ils se promenaient en manches de chemise sur leur terrasse. Le soleil se levait, des brumes légères passaient sur le fleuve, on entendait un glapissement dans le marché aux fleurs à côté, et les fumées de leurs pipes tourbillonnaient dans l'air pur, qui rafraîchissait leurs yeux encore bouffis. Ils sentaient, en l'aspirant, un vaste espoir épandu. Quand il ne pleuvait pas, le dimanche, ils sortaient ensemble, et bras dessus, bras dessous, ils s'en allaient par les rues. Presque toujours la même réflexion leur survenait à la fois, ou bien ils causaient, sans rien voir autour d'eux. Deslauriers ambitionnait la richesse, comme moyen de puissance sur les hommes. Il aurait voulu remuer beaucoup de monde, faire beaucoup de bruit, avoir 3 secrétaires sous ses ordres, et un grand dîner politique une fois par semaine. Frédéric se meublait un palais à la mauresque pour vivre couché sur des divans de cachemire, au murmure d'un jet d'eau, servi par des pages nègres. Et ces choses rêvées devenaient à la fin tellement précises qu'elles le désolaient comme s'il les avait perdues. « À quoi bon causer de tout cela ? » disait-il, « puisque jamais nous ne l'aurons. »
« Qui sait ? » reprenait Deslauriers.
Malgré ses opinions démocratiques, il l'engageait à s'introduire chez les Dambreuse. L'autre objectait ses tentatives.
« Bah, retourne-y, on t'invitera !»
Ils reçurent, vers le milieu du mois de mars, parmi des notes assez lourdes, celles du restaurateur qui leur apportait à dîner. Frédéric, n'ayant point la somme suffisante, emprunta 100 écus à Deslauriers. 15 jours plus tard, il réitéra la même demande, et le clerc le gronda pour les dépenses auxquelles il se livrait chez Arnoux. Effectivement, il n'y mettait point de modération. Une vue de Venise, une vue de Naples et une autre de Constantinople, occupant le milieu des 3 murailles, des sujets équestres d'Alfred de Dreux, ça et là, un groupe de pradiers sur la cheminée, des numéros de l'art industriel sur le piano et des cartonnages par terre dans les angles encombraient le logis d'une telle façon qu'on avait peine à poser un livre, à remuer les coudes.
Frédéric prétendait qu'il lui fallait tout cela pour sa peinture. Il travaillait chez Pellerin. Mais souvent Pellerin était en course, ayant coutume d'assister à tous les enterrements et événements dont les journaux devaient rendre compte. Et Frédéric passait des heures entièrement seul dans l'atelier. Le calme de cette grande pièce, où l'on n'entendait que le trottinement des souris, la lumière qui tombait du plafond et jusqu'au ronflement du poêle, tout le plongeait d'abord dans une sorte de bien-être intellectuel. Puis ses yeux, abandonnant son ouvrage, se portaient sur les écaillures de la muraille, parmi les bibelots de l'étagère, le long des torses où la poussière amassée faisait comme des lambeaux de velours. Et, tel qu'un voyageur perdu au milieu d'un bois et que tous les chemins ramènent à la même place, continuellement il retrouvait au fond de chaque idée le souvenir de Madame Arnoux. Il se fixait des jours pour aller chez elle. Arrivé au second étage, devant sa porte, il hésitait à sonner. Des pas se rapprochaient, on ouvrait, et à ces mots, « Madame est sortie !» C'était une délivrance, et comme un fardeau de moins sur son cœur. Il la rencontra pourtant. La première fois, il y avait trois dames avec elle. Une autre après-midi, le maître d'écriture de Mademoiselle Marthe survint. D'ailleurs, les hommes que recevait Madame Arnoux ne lui faisaient point de visite. Il n'y retourna plus par discrétion. Mais il ne manquait pas, pour qu'on l'invitât au dîner de jeudi, de se présenter à l'art industriel chaque mercredi, régulièrement. Et il y restait après tous les autres, plus longtemps que Regimbard, jusqu'à la dernière minute, en feignant de regarder une gravure, de parcourir un journal. Enfin, Arnoux lui disait « Êtes-vous libre demain soir ?» Il acceptait avant que la phrase fût achevée. Arnoux semblait le prendre en affection. Il lui montra l'art de reconnaître les vins, à brûler le punch, à faire des salmis de bécasse. Frédéric suivait docilement ses conseils, aimant tout ce qui dépendait de Madame Arnoux. Ses meubles, ses domestiques, sa maison, sa rue. Il ne parlait guère pendant ses dîners, il la contemplait. Elle avait à droite, contre la tempe, un petit grain de beauté. Ses bandeaux étaient plus noirs que le reste de sa chevelure, et toujours comme un peu humides sur les bords. Elle les flattait de temps à autre, avec deux doigts seulement. Il connaissait la forme de chacun de ses ongles. Il se délectait à écouter le sifflement de sa robe de soie quand elle passait auprès des portes. Il humait en cachette la senteur de son mouchoir. Son peigne, ses gants, ses bagues étaient pour lui des choses particulières, importantes comme des œuvres d'art, presque animées comme des personnes. Tout lui prenait le cœur et augmentait sa passion. Il n'avait pas eu la force de la cacher à Des Lauriers. Quand il revenait de chez Madame Arnoux, il le réveillait comme par mégarde afin de pouvoir causer d'elle. Des Lauriers, qui couchait dans le cabinet au bois près de la fontaine, poussait un long bâillement. Frédéric s'asseyait au pied de son lit. D'abord, il parlait du dîner, puis il racontait mille détails insignifiants où il voyait des marques de mépris ou d'affection. Une fois, par exemple, elle avait refusé son bras pour prendre celui de Dietmer, et Frédéric se désolait. « Oh, quelle bêtise !» Ou bien elle l'avait appelé son ami. « Vas-y gaiement, alors !»« Mais je n'ose pas !» disait Frédéric. « Eh bien, n'y pense plus. Bonsoir !» Des Lauriers se retournaient vers la ruelle et s'endormaient. Ils ne comprenaient rien à cet amour, qu'il regardait comme une dernière faiblesse d'adolescence. Et son intimité ne lui suffisant plus, sans doute, il imagina de réunir leurs amis communs une fois la semaine. Ils arrivaient le samedi, vers 9 heures. Les trois rideaux d'algérienne étaient soigneusement tirés. La lampe et 4 bougies brûlaient. Au milieu de la table, le pot à tabac, tout plein de pipes, s'étalaient entre les bouteilles de bière, la théière, un flacon de rhum et des petits fours. On discutait sur l'immortalité de l'âme, on faisait des parallèles entre les professeurs. Hussonnet, un soir, introduisit un grand jeune homme habillé d'une redingote trop courte des poignets et la contenance embarrassée. C'était le garçon qu'ils avaient réclamé au poste l'année dernière. N'ayant pu rendre à son maître le carton de dentelle perdu dans la bagarre, celui-ci l'avait accusé de vol, menacé des tribunaux. Maintenant, il était commis dans une maison de roulage. Hussonnet, le matin, l'avait rencontré au coin d'une rue, et il l'amenait, car Dussardier, par reconnaissance, voulait voir l'autre. Il tendit à Frédéric le porte-cigare encore plein et qu'il avait gardé religieusement avec l'espoir de le rendre. Les jeunes gens l'invitèrent à revenir. Il n'y manqua pas. Tous sympathisaient. D'abord, leur haine du gouvernement avait la hauteur d'un dogme indiscutable. Martinon seul tâchait de défendre Louis-Philippe. On l'accablait sous les lieux communs, traînant dans les journaux, l'embastillement de Paris, les lois de septembre, Pritchard, Lord Guizot, si bien que Martinon se taisait, craignant d'offenser quelqu'un. En 7 ans de collège, il n'avait pas mérité de pensum, et à l'école de droit, il savait plaire au professeur. Il portait ordinairement une grosse redingote couleur mastic avec des claques en caoutchouc. Mais il apparut un soir dans une toilette de mariée, gilet de velours à châle, cravate blanche, chaîne d'or. L'étonnement redoubla quand on sut qu'il sortait de chez M. d'Ambreuse. En effet, le banquier d'Ambreuse venait d'acheter au père Martinon une partie de bois considérable. Le bonhomme lui ayant présenté son fils, il les avait invités à dîner tous les deux. « Y avait-il beaucoup de truffes ?» demanda Deslauriers. « Et as-tu pris la taille à son épouse entre deux portes, 6 coutes des quêtes ?» Alors la conversation s'engagea sur les femmes. Pellerin n'admettait pas qu'il y eût de belles femmes. Il préférait les tigres. D'ailleurs, la femelle de l'homme était une créature inférieure dans la hiérarchie esthétique. « Ce qui vous séduit ?» est particulièrement ce qui la dégrade comme idée, je veux dire les seins, les cheveux. « Cependant, objecta Frédéric, de longs cheveux noirs, avec de grands yeux noirs. « Oh, connu !» s'écria Hussonnet, « assez d'Andalouse sur la pelouse. Des choses antiques, serviteur, car enfin, voyons, pas de blague. Une lorette est plus amusante que la Vénus de Milo. Soyons gaulois, nom d'un petit bonhomme, et régence si nous pouvons. Coulez, bon vin, femme, daignez sourire. Il faut passer de la brune à la blonde. Est-ce votre avis, père Dussardier ?» Dussardier ne répondit pas. Tous le pressèrent pour connaître ses goûts. « Eh bien, fit-il en rougissant, moi, je voudrais aimer la même, toujours. » Cela fut dit d'une telle façon qu'il y eut un moment de silence, les uns étant surpris de cette candeur, et les autres y découvrant, peut-être, la secrète convoitise de leur âme. Sénécal posa sur le chambranle sa chope de bière et déclara dogmatiquement que, la prostitution étant une tyrannie et le mariage une immoralité, il valait mieux s'abstenir. Deslauriers prenait les femmes comme une distraction, rien de plus. Monsieur de Sisy avait à leur endroit toute espèce de crainte. Élevé sous les yeux d'une grand-mère dévote, il trouvait la compagnie de ces jeunes gens alléchante comme un mauvais lieu et instructive comme une Sorbonne. On ne lui ménageait pas les leçons, et il se montrait plein de zèle, jusqu'à vouloir fumer, en dépit des maux de cœur qui le tourmentaient chaque fois, régulièrement. Frédéric l'entourait de soins. Il admirait la nuance de ses cravates, la fourrure de son paletot, et surtout ses bottes, mince comme des gants, et qui semblait insolente de netteté et de délicatesse. Sa voiture l'attendait en bas dans la rue. Un soir qu'il venait de partir et que la neige tombait, Sénécal se mit à plaindre son cocher. Puis il déclama contre les gants jaunes le Jockey Club. Il faisait plus de cas d'un ouvrier que de ces messieurs. « Moi, je travaille au moins, je suis pauvre. »«
Cela se voit, » dit à la fin Frédéric, impatienté.
Le répétiteur lui garda rancune pour cette parole. Mais Regimbard ayant dit qu'il connaissait un peu Sénécal, Frédéric, voulant faire une politesse à l'ami d'Arnoux, le pria de venir aux réunions du samedi, et la rencontre fut agréable aux deux patriotes. Il différait cependant. Sénécal, qui avait un crâne en pointe, ne considérait que les systèmes. Regimbard, au contraire, ne voyait dans les faits que les faits. Ce qui l'inquiétait principalement, c'était la frontière du Rhin. Il prétendait se connaître en artillerie et se faisait habiller par le tailleur de l'école polytechnique. Le premier jour, quand on lui offrit des gâteaux, il leva les épaules dédaigneusement en disant que cela convenait aux femmes. Et il ne parut guère plus gracieux les fois suivantes. Du moment que les idées atteignaient une certaine hauteur, il murmurait « Oh, pas d'utopie, pas de rêve !» En fait d'art, bien qu'il fréquentât les ateliers où quelquefois il donnait par complaisance une leçon d'escrime, ses opinions n'étaient point transcendantes. Il comparait le style de M. Marrast à celui de Voltaire et Mlle Vatnaz à Mme de Staël à cause d'une ode sur la Pologne où il y avait du cœur. Enfin, Regimbard assommait tout le monde, et particulièrement des lauriers, car le citoyen était un familier d'Arnoux. Or, le clerc ambitionnait de fréquenter cette maison, espérant y faire des connaissances profitables. « Quand donc m'y mèneras-tu » disait-il. Arnoux se trouvait surchargé de besogne, ou bien il partait en voyage. Puis, ce n'était pas la peine, les dîners allaient finir. S'il avait fallu risquer sa vie pour son ami, Frédéric l'eût fait. Mais, comme il tenait à se montrer le plus avantageusement possible, comme il surveillait son langage, ses manières et son costume, jusqu'à venir au bureau de l'art industriel, toujours irréprochablement ganté, il avait peur que Des Lauriers, avec son vieil habit noir, sa tournure de procureur et ses discours outrecuidants, ne déplût à Madame Arnoux, ce qui pouvait le compromettre, le rabaisser lui-même auprès d'elle. Il admettait bien les autres, mais celui-là, précisément, l'aurait gêné mille fois plus. Le clerc s'apercevait qu'il ne voulait pas tenir sa promesse, et le silence de Frédéric lui semblait une aggravation d'injure. Il aurait voulu le conduire absolument, le voir se développer d'après l'idéal de leur jeunesse, et sa fainéantise le révoltait, comme une désobéissance et comme une trahison. D'ailleurs, Frédéric, plein de l'idée de Madame Arnoux, parlait de son mari souvent, et Des Lauriers commença une intolérable scie, consistant à répéter son nom 100 fois par jour, à la fin de chaque phrase, comme un tic d'idiot. Quand on frappait à sa porte, il répondait « Entrez, Arnoux !» Au restaurant, il demandait un fromage de brie à l'instar d'Arnoux. Et la nuit, feignant d'avoir un cauchemar, il réveillait son compagnon en hurlant « Arnoux ! Arnoux !» Enfin, un jour, Frédéric, excédé, lui dit d'une voix lamentable « Mais laisse-moi tranquille avec Arnoux !»«
Jamais !» répondit le clerc.
Toujours lui, lui partout, ou brûlante ou glacée, l'image de l'Arnoux.
« Tais-toi donc !»
s'écria Frédéric en levant le poing. Il reprit doucement.
« C'est un sujet qui m'est pénible, tu sais bien. »«
Oh, pardon, mon bonhomme !» répliqua Des Lauriers en s'inclinant très bas. « On respectera désormais les nerfs de mademoiselle. » Pardon encore une fois. Mille excuses. » Ainsi fut terminée la plaisanterie. Mais 3 semaines après, un soir, il lui dit « Eh bien, je l'ai vue tantôt, Madame Arnoux. » « Où donc ?»« Au palais, avec Balandard, avoué. Une femme brune, n'est-ce pas ? De taille moyenne. » Frédéric fit un signe d'assentiment. Il attendait que Deslauriers parlât. Au moindre mot d'admiration, il se serait épanché largement. Était tout prêt à le chérir. L'autre se taisait toujours. Enfin, n'y tenant plus, il lui demanda d'un air indifférent ce qu'il pensait d'elle. Deslauriers la trouvait pas mal, sans avoir pourtant rien d'extraordinaire. « Ah, tu trouves ?» dit Frédéric. Arriva le mois d'août, époque de son 2e examen. D'après l'opinion courante, 15 jours devaient suffire pour en préparer les matières. Frédéric, ne doutant pas de ses forces, avala d'emblée les 4 premiers livres du code de procédure, les 3 premiers du code pénal, plusieurs morceaux d'instruction criminelle et une partie du code civil avec les annotations de M. Poncelet. La veille, Deslauriers lui fit faire une récapitulation qui se prolongea jusqu'au matin. Et pour mettre à profit le dernier quart d'heure, il continua à l'interroger sur le trottoir tout en marchant. Comme plusieurs examens se passaient simultanément, il y avait beaucoup de monde dans la cour, entre autres Hussonnet et Sisy. On ne manquait pas de venir à ces épreuves quand il s'agissait des camarades. Frédéric endossa la robe noire traditionnelle. Puis il entra, suivi de la foule, avec 3 autres étudiants, dans une grande pièce éclairée par des fenêtres sans rideaux et garnie de banquettes le long des murs. Au milieu, des chaises de cuir entouraient une table décorée d'un tapis vert. Elle séparait les candidats de messieurs les examinateurs en robe rouge, tous portant des chausses d'hermine sur l'épaule, avec des toques à galons d'or sur le chef. Frédéric se trouvait l'avant-dernier dans la série. Position mauvaise. À la première question sur la différence entre une convention et un contrat, il définit l'une pour l'autre. Et le professeur, un brave homme, lui dit « Ne vous troublez pas, monsieur, remettez-vous. » Puis, ayant fait 2 demandes faciles, suivies de réponses obscures, il passa enfin au 4e. Frédéric fut démoralisé par ce piètre commencement. Deslauriers, en face, dans le public, lui faisait signe que tout n'était pas encore perdu. Et à la 2e interrogation sur le droit criminel, il se montra passable. Mais, après la 3e, relative au testament mystique, l'examinateur étant resté impassible tout le temps, son angoisse redoubla. Car Hussonnet joignait les mains comme pour applaudir, tandis que Deslauriers prodiguait les haussements d'épaules. Enfin, le moment arriva où il fallut répondre sur la procédure. Il s'agissait de la tierce opposition. Le professeur, choqué d'avoir entendu des théories contraires aux siennes, lui demanda d'un ton brutal « Et vous, monsieur, est-ce votre avis ? Comment conciliez-vous le principe de l'article 1351 du Code civil avec cette voie d'attaque extraordinaire ?» Frédéric se sentait un grand mal de tête pour avoir passé la nuit sans dormir. Un rayon de soleil, entrant par l'intervalle d'une jalousie, le frappait au visage. Debout derrière la chaise, il se dandinait et tirait sa moustache. « J'attends toujours votre réponse !» reprit l'homme à la toque d'or. Et comme le geste de Frédéric l'agaçait sans doute, « Ce n'est pas dans votre barbe que vous la trouverez !» Ce sarcasme causa un rire dans l'auditoire. Le professeur, flatté, s'amadoua. Il lui fit 2 questions encore sur l'ajournement et sur l'affaire sommaire, puis baissa la tête en signe d'approbation. L'acte public était fini, Frédéric rentra dans le vestibule. Pendant que l'huissier le dépouillait de sa robe pour la repasser à un autre immédiatement, Ses amis l'entourèrent en achevant de l'ahurir avec leurs opinions contradictoires sur le résultat de l'examen. On le proclama bientôt d'une voix sonore à l'entrée de la salle. Le troisième était ajourné. « Emballé, » dit Hussonnet, « allons-nous-en. » Devant la loge du concierge, ils rencontrèrent Martinon, rouge, ému, avec un sourire dans les yeux et l'auréole du triomphe sur le front. Il venait de subir sans encombre son dernier examen. Restait seulement la thèse. Avant 15 jours, il serait licencié. Sa famille connaissait un ministre, une belle carrière s'ouvrait devant lui. « Celui-là t'enfonce tout de même, » dit Deslauriers. Rien n'est humiliant comme de voir les sots réussir dans les entreprises où l'on échoue. Frédéric, vexé, répondit qu'il s'en moquait. Ses prétentions étaient plus hautes. Et comme Hussonnet faisait mine de s'en aller, il le prit à l'écart pour lui dire « Pas un mot de tout cela chez eux, bien entendu !» Le secret était facile, puisque Arnoux, le lendemain, partait en voyage pour l'Allemagne. Le soir, en rentrant, Leclerc trouva son ami singulièrement changé. Il pirouettait, sifflait. Et l'autre, s'étonnant de cette humeur, Frédéric déclara qu'il n'irait pas chez sa mère, il emploierait ses vacances à travailler. À la nouvelle du départ d'Arnoux, une joie l'avait saisi. Il pouvait se présenter là-bas, tout à son aise, sans crainte d'être interrompu dans ses visites. La conviction d'une sécurité absolue lui donnerait du courage. Enfin, il ne serait pas éloigné, ne serait pas séparé d'elle. Quelque chose de plus fort qu'une chaîne de fer l'attachait à Paris. Une voix intérieure lui criait de rester. Des obstacles s'y opposaient. Il les franchit en écrivant à sa mère. Il confessait d'abord son échec, occasionné par des changements faits dans le programme. Un hasard, une injustice. D'ailleurs, tous les grands avocats, ils citaient leurs noms, avaient été refusés à leurs examens. Mais ils comptaient se présenter de nouveau au mois de novembre. Or, n'ayant pas de temps à perdre, ils n'iraient point à la maison cette année. Et ils demandaient, outre l'argent d'un trimestre, 250 francs pour des répétitions de droit, fort utile. Le tout enguirlandé de regrets, condoléances, chatteries et protestations d'amour filial. Madame Moreau, qui l'attendait le lendemain, fut chagrinée doublement. Elle cacha la mésaventure de son fils et lui répondit de venir tout de même. Frédéric ne céda pas. Une brouille s'ensuivit. À la fin de la semaine, néanmoins, il reçut l'argent du trimestre, avec la somme destinée aux répétitions, et qui servit à payer un pantalon gris-perle, un chapeau de feutre blanc et une badine à pommes d'or. Quand tout cela fut en sa possession, « C'est peut-être une idée de coiffeur que j'ai eue, » songea-t-il, et une grande hésitation le prit. Pour savoir s'il irait chez Madame Arnoux, il jeta par 3 fois dans l'air des pièces de monnaie. Toutes les fois, le présage fut heureux. Donc, la fatalité l'ordonnait. Il se fit conduire en fiacre rue de Choiseul. Il monta vivement l'escalier, tira le cordon de la sonnette. Elle ne sonna pas. Il se sentait près de défaillir. Puis il ébranla d'un coup furieux le lourd gland de soie rouge. Un carillon retentit, s'apaisa par degrés, et l'on n'entendait plus rien. Frédéric eut peur. Il colla son oreille contre la porte, pas un souffle. Il mit son œil au trou de la serrure, et il n'apercevait dans l'antichambre que 2 pointes de roseau sur la muraille parmi les fleurs du papier. Enfin, il tournait les talons quand il se ravisa. Cette fois, il donna un petit coup léger. La porte s'ouvrit. Et sur le seuil, les cheveux ébouriffés, la face cramoisie et l'air maussade, Arnoux lui-même parut. « Tiens, qui diable vous amène ? Entrez !» Il l'introduisit, non dans le boudoir ou dans sa chambre, mais dans la salle à manger, où l'on voyait sur la table une bouteille de vin de champagne avec deux verres. Et, d'un ton brusque, « Vous avez quelque chose à me demander, cher ami ?»«
Non, rien, rien, » balbutia le jeune homme, cherchant un prétexte à sa visite.
Enfin, il dit qu'il était venu savoir de ses nouvelles, car il le croyait en Allemagne sur le rapport du sonnet.
« Nullement, » reprit Arnoux. « Quelle linotte que ce garçon-là pour entendre tout de travers !»
Afin de dissimuler son trouble, Frédéric marchait de droite et de gauche dans la salle. En heurtant le pied d'une chaise, il fit tomber une ombrelle posée dessus. Le manche d'ivoire se brisa.
« Mon Dieu ! » s'écria-t-il. « Comme je suis chagrin d'avoir brisé l'ombrelle de Madame Arnoux !»
À ce mot, le marchand releva la tête et eut un singulier sourire. Frédéric, prenant l'occasion qui s'offrait de parler d'elle, ajouta timidement « Est-ce que je ne pourrais pas la voir ?» Elle était dans son pays, près de sa mère malade. Il n'osa faire de questions sur la durée de cette absence. Il demanda seulement quel était le pays de Madame Arnoux.
« Chartres, cela vous étonne ?»«
Moi, non, pourquoi, pas le moins du monde ?» Ils ne trouvèrent, ensuite, absolument rien à se dire. Arnoux, qui s'était fait une cigarette, tournait autour de la table, en soufflant. Frédéric, debout contre le poêle, contemplait les murs, l'étagère, le parquet. Et des images charmantes défilaient dans sa mémoire, devant ses yeux, plutôt. Enfin, il se retira. Un morceau du journal, roulé en boule, traînait par terre dans l'antichambre. Arnoux le prit, et, se haussant sur la pointe des pieds, il l'enfonça dans la sonnette. « Pour continuer, » dit-il, « sa sieste interrompue. » Puis, en lui donnant une poignée de main, « Avertissez le concierge, s'il vous plaît, que je n'y suis pas. » Et il referma la porte sur son dos, violemment. Frédéric descendit l'escalier marche à marche. L'insuccès de cette première tentative le décourageait sur le hasard des autres. Alors commencèrent 3 mois d'ennui. Comme il n'avait aucun travail, son désœuvrement renforçait sa tristesse. Il passait des heures à regarder, du haut de son balcon, la rivière qui coulait entre les quais grisâtres, noircie de place en place par la bavure des égouts, avec un ponton de blanchisseuse amarré contre le bord, où des gamins quelquefois s'amusaient, dans la vase, à faire baigner un caniche. Ses yeux, délaissant à gauche le pont de pierre de Notre-Dame et 3 ponts suspendus, se dirigeaient toujours vers le quai aux Ormes, sur un massif de vieux arbres, pareils aux tilleuls du port de Montereau. La tour Saint-Jacques, l'hôtel de ville, Saint-Gervais, Saint-Louis, Saint-Paul se levaient en face, parmi les toits confondus, et le génie de la colonne de Juillet resplendissait à l'Orient comme une large étoile d'or, tandis qu'à l'autre extrémité, le dôme des Tuileries arrondissait sur le ciel sa lourde masse bleue. C'était par derrière, de ce côté-là, que devait être la maison de Madame Arnoux. Il rentrait dans sa chambre, puis, couché sur son divan, s'abandonnait à une méditation désordonnée. Plan d'ouvrage, projet de conduite et lancement vers l'avenir. Enfin, pour se débarrasser de lui-même, il sortait. Il remontait, au hasard, le quartier latin, si tumultueux d'habitude, mais désert à cette époque, car les étudiants étaient partis dans leur famille. Les grands murs des collèges, comme allongés par le silence, avaient un aspect plus morne encore. On entendait toutes sortes de bruits paisibles, des battements d'ailes dans des cages, le ronflement d'un tour, le marteau d'un savetier. Et les marchands d'habits au milieu des rues interrogeaient de l'œil chaque fenêtre, inutilement. Au fond des cafés solitaires, la dame du comptoir bâillait entre ses carafons remplis. Les journaux demeuraient en ordre sur la table des cabinets de lecture. Dans l'atelier des repasseuses, des linges frissonnaient sous les bouffées du vent tiède. De temps à autre, il s'arrêtait à l'étalage d'un bouquiniste. Un omnibus, qui descendait en frôlant le trottoir, le faisait se retourner. Et, parvenu devant le Luxembourg, il n'allait pas plus loin. Quelquefois, l'espoir d'une distraction l'attirait vers les boulevards. Après de sombres ruelles exhalant des fraîcheurs humides, il arrivait sur de grandes places désertes, éblouissantes de lumière, et où les monuments dessinaient au bord du pavé des dentelures d'ombre noire. Mais les charrettes, les boutiques recommençaient, et la foule l'étourdissait, le dimanche surtout, quand, depuis la Bastille jusqu'à la Madeleine, c'était un immense flot ondulant sur l'asphalte, au milieu de la poussière, dans une rumeur continue. Il se sentait tout écœuré par la bassesse des figures, la niaiserie des propos, la satisfaction imbécile transpirant sur les fronts en sueur. Cependant, la conscience de mieux valoir que ces hommes atténuait la fatigue de les regarder. Il allait tous les jours à l'art industriel, et pour savoir quand reviendrait Madame Arnoux, il s'informait de sa mère très longuement. La réponse d'Arnoux ne variait pas. Le mieux se continuait. Sa femme, avec la petite, serait de retour la semaine prochaine. Plus elle tardait à revenir, plus Frédéric témoignait d'inquiétude. Si bien qu'Arnoux, attendri par tant d'affection, l'emmena 5 ou 6 fois dîner au restaurant. Frédéric, dans ses longs tête-à-tête, reconnut que le marchand de peinture n'était pas fort spirituel. Arnoux pouvait s'apercevoir de ce refroidissement, et puis c'était l'occasion de lui rendre un peu ses politesses. Voulant donc faire les choses très bien, il vendit à un brocanteur tous ses habits neufs, moyennant la somme de 80 francs, et, l'ayant grossi de 100 autres qui lui restaient, il vint chez Arnoux le prendre pour dîner. Regimbard s'y trouvait. Ils s'en allèrent aux 3 frères provençaux. Le citoyen commença par retirer sa redingote et, sûr de la déférence des 2 autres, écrivit la carte. Mais il eut beau se transporter dans la cuisine pour parler lui-même au chef, descendre à la cave dont il connaissait tous les coins et faire monter le maître de l'établissement auquel il donna un savon, il ne fut content ni des mets, ni des vins, ni du service. À chaque plat nouveau, à chaque bouteille différente, dès la première bouchée, la première gorgée, il laissait tomber sa fourchette ou repoussait au loin son verre. Puis, s'accoudant sur la nappe de toute la longueur de son bras, il s'écriait qu'on ne pouvait plus dîner à Paris. Enfin, ne sachant qu'imaginer pour sa bouche, Regimbard se commanda des haricots à l'huile, tout bonnement, lesquels, bien qu'à moitié réussis, l'apaisèrent un peu. Puis il eut avec le garçon un dialogue, roulant sur les anciens garçons des Provençaux. Qu'était devenu Antoine? Et un nommé Eugène? Et Théodore, le petit qui servait toujours en bas? Il y avait dans ce temps-là une chair autrement distinguée, et des têtes de Bourgogne comme on n'en reverra plus. Ensuite, il fut question de la valeur des terrains dans la banlieue, une spéculation d'Arnoux, infaillible. En attendant, il perdait ses intérêts, puisqu'il ne voulait vendre à aucun prix. Regimbard lui découvrirait quelqu'un, et ces 2 messieurs firent, avec un crayon, des calculs jusqu'à la fin du dessert. On s'en alla prendre le café Passage du Saumon, dans un estaminet à l'entresol. Frédéric assista, sur ses jambes, à d'interminables parties de billard, abreuvées d'innombrables chopes. Et il resta là, jusqu'à minuit, sans savoir pourquoi. Par lâcheté, par bêtise, dans l'espérance confuse d'un événement quelconque favorable à son amour. Quand donc la reverrait-il? Frédéric se désespérait. Mais, un soir, vers la fin de novembre, Arnoux lui dit « Ma femme est revenue hier, vous savez ?» Le lendemain, à 5 heures, il entrait chez elle. Il débuta par des félicitations à propos de sa mère, dont la maladie avait été si grave. « Mais non, qui vous l'a dit ?»« Arnoux ? Elle fit un « Ah !» léger, puis ajouta qu'elle avait eu d'abord des craintes sérieuses, maintenant disparues. Elle se tenait près du feu, dans la bergère de tapisserie. Il était sur le canapé, avec son chapeau entre ses genoux. Et l'entretien fut pénible. Elle l'abandonnait à chaque minute. Il ne trouvait pas de joint pour y introduire ses sentiments. Mais, comme il se plaignait d'étudier la chicane, elle répliqua « Oui, je conçois. Les affaires. » En baissant la figure, absorbée tout à coup par des réflexions. Il avait soif de les connaître, et même ne songeait pas à autre chose. Le crépuscule amassait de l'ombre autour d'eux. Elle se leva, ayant une course à faire, puis reparut avec une capote de velours et une mante noire bordée de petits gris. Il osa offrir de l'accompagner. On n'y voyait plus. Le temps était froid et un lourd brouillard, estompant la façade des maisons, puait dans l'air. Frédéric le humait avec délice, car il sentait à travers la ouate du vêtement la forme de son bras. Et sa main, prise dans un gant chamois à deux boutons, sa petite main qu'il aurait voulu couvrir de baisers, s'appuyait sur sa manche. À cause du pavé glissant, ils oscillaient un peu. Il lui semblait qu'ils étaient tous les deux comme bercés par le vent au milieu d'un nuage. L'éclat des lumières sur le boulevard le remit dans la réalité. L'occasion était bonne, le temps pressait. Il se donna jusqu'à la rue de Richelieu pour déclarer son amour. Mais, presque aussitôt, devant un magasin de porcelaine, elle s'arrêta net en lui disant « Nous y sommes, je vous remercie. À jeudi, n'est-ce pas, comme d'habitude ?»